Gardarem, la terre et la mer.
Bonjour à tous. Cinquième émission de notre série de rendez-vous au sein des rencontres internationales qui se déroulent à Nantes, dans l'Aveyron, en ce mois de juillet 2011. Je vous rappelle que de nombreuses radios associatives diffusent dans leur réseau ces rendez-vous radiophoniques. Radio Larzac, Radio Pays d'Hérault, Fréquence Paris Pluriel, toutes trois présentes à Nantes, mais également Radio Temps à Rodez, Radio Transparence à Foix, Grésivaudan à Chambéry, Radio Divergence à Montpellier, ainsi que l'Écho des Garrigues, toujours à Montpellier, Radio Abilgès à Albi et Radio Fil d'Hérault, pardon, et Radio Fil de l'eau dans le Gers. Nous avons parlé hier de l'accaparement des terres agricoles. Nous allons évoquer aujourd'hui plus particulièrement l'accaparement des ressources naturelles du sous-sol. La véritable ruée vers l'exploitation des métaux lourds et des ressources énergétiques ne se justifie que pour perpétuer un type de développement qui détruit la planète et met en danger l'humanité. Nous sommes bien là au cœur des problématiques de ces rencontres internationales. Nous allons donc évoquer ces sujets à travers plusieurs exemples, le gaz de schiste et l'exploitation des mines à ciel ouvert en Argentine. Je vous présente donc nos invités pour cette émission. Donc, Roger Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présenterez la lutte qui est menée en Argentine contre des mines à ciel ouvert avec un de vos invités qui s'appelle
José Sajama.
Voilà, bonjour José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para toda tu audiencia.
Muchas gracias. Serge Fortier également, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Oui, Québécois, qui nous parlera, lui, des gaz de schiste. Deux exemples d'accaparement des ressources naturelles, des sous-sols, et on verra un petit peu que ça pose des problèmes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Cette émission sera animée par Catherine de Radio Larzac.
Et Robert Martin de Radio Pays d'Hérault.
Bien, voilà, les présentations sont faites. On va commencer. Alors, on va peut-être commencer par le gaz de schiste. Alors, on connaît bien depuis à peu près un peu plus d'un an en France les tentatives qui ont été faites par le gouvernement de signer, enfin, des signatures d'accords qui ont été faites par le gouvernement pour explorer, d'abord explorer et exploiter du gaz de schiste. Au Québec, ça fait quelques années déjà que c'est en place. Alors, racontez-nous un petit peu, Serge Fortier, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, ça fait quelques années que c'est en place, mais ça ne fait pas quelques années que nous sommes au courant, justement, nous, les citoyens, que sur notre territoire, nous avons des puits déjà forés et déjà fracturés, ce qu'ils appellent la fracturation hydraulique, qui est une étape extrêmement dangereuse et contestée, fortement contestable, d'ailleurs, sur le plan environnemental et sur le plan social aussi. Il y a beaucoup d'impact possible à cause de ce type d'exploitation-là. Et donc, à notre insu, on est dedans. On n'a pas le choix, on est dedans l'industrie du gaz de schiste qui veut s'installer avec la bénédiction de notre gouvernement. Alors, en août 2010, ça ne fait même pas encore un an que des groupes de citoyens se sont soulevés, se sont formés à travers la vallée du Saint-Laurent qui couvre quand même 10 000 km², là, et il y a 274 municipalités qui sont visées par cette industrie. Plusieurs comités, une cinquantaine de comités de citoyens, là, maintenant, sont formés et travaillent à sensibiliser la population, nos concitoyens, aux problématiques éventuelles. L'objectif n'est pas de savoir si on est pour ou on est contre, est-ce que ça peut être bon ou pas bon sur le plan économique ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de savoir quel prix sommes-nous prêts à payer pour voir l'industrie s'installer si elle s'installe. Et en faisant le bilan, on se rend compte rapidement que le prix serait très cher payé.
Mais d'autant plus qu'aux États-Unis, ça fait à peu près une dizaine d'années que ces puits, il y a à peu près, je crois, des centaines et des centaines de puits, que ces puits sont en exploitation. On en recule un petit peu aujourd'hui, ouais. Que ce soit sur le plan environnemental, sur l'impact sur les populations, sur les animaux. Le film Gazland, là, qui nous est arrivé en France depuis un an, a bien montré les dégâts que cela pouvait faire sur l'environnement.
Oui, définitivement. Pour vous reprendre, des centaines de milliers de puits aux États-Unis et 20 000 puits prévus seulement dans la vallée du Saint-Laurent au Québec. Alors, 20 000 puits sur 10 000 kilomètres carrés. Ça vous donne une idée de la densité des puits qu'il y aurait si on accepte ça. Et aux États-Unis, c'est ce qu'on se dit avec la vue du film Gazland, que certains contestent en disant que c'est un film, il y a de la fiction là-dedans. Reste que non, il y a peut-être des choses qui sont à prouver dans l'avenir, mais il y a plusieurs points dans le film Gazland qui... porte à réfléchir et qui sont des cas typiques, des cas exacts, parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'aux États-Unis, il y a des puits qui sont forés et là, les problèmes surviennent.
Alors peut-être pour les auditeurs de nos radios locales, et on en a beaucoup parlé sur toutes les radios que j'ai citées tout à l'heure, mais peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas quand même entendu parler du film Gazland, est-ce que vous pouvez en quelques mots peut-être nous résumer ce que nous dit ce film, ce que nous montre ce film John Fox?
Le film Gazland fait par Joss Fox, et Joss Fox est il a créé le film, mais avant tout, il est un citoyen qui a une propriété dans une État de New York et des États-Unis. Et il a été approché par les gazières pour... en tout cas, il pouvait recevoir un montant très intéressant s'il donnait la permission aux gazières d'explorer ou d'exploiter sur ces terres. Mais il a pris la peine de s'informer avant parce que c'est un milieu quand même avec une belle rivière, tout ça. Il tenait à son environnement. Il voulait être sûr que ça ne soit pas trop destructeur. Et avec les recherches qu'il a faites, plus il a cherché, il est allé dans d'autres États américains et il a constaté plusieurs problématiques. Il a contacté beaucoup de gens qui vivaient des problématiques de santé, d'environnement, d'empoisonnement au niveau de l'eau potable, souvent. Des puits, on voyait ça, là, que l'eau prend feu, des puits qui explosent, des puits d'eau potable, etc. Alors, il a refusé que les gazières viennent s'installer. Et pourtant, il y avait un très beau montant d'argent. Mais, vous savez, des fois, on dit que l'argent peut acheter tout, mais... il y a des valeurs qu'il faut protéger et puis je considère que M. Fox a très bien fait de ne pas accepter ces montants d'argent-là pour éviter de vivre les problèmes qu'actuellement les États-Unis vivent.
Alors aussi une information pour les auditeurs. En gros, le gaz de schiste, c'est des bulles de gaz qui sont contenues dans des roches-mères qui sont environ entre 2 et 3 km de profondeur. Que la technique américaine, la seule technique qui existe aujourd'hui, s'appelle la fracturation hydraulique et qu'elle consiste à creuser un puits vertical puis horizontal, d'envoyer à très très haute pression des quantités énormes d'eau mélangée à des quantités énormes de produits chimiques pour aller libérer au fond le gaz qui est enfermé dans ces roches et de faire remonter le tout à la surface. Hein, je crois que c'est ça.
Oui, exactement. Et justement, les bulles de gaz sont vraiment emprisonnées dans cette couche-là qui est imperméable. Alors, il y a à peu près 2% du volume de cette couche-là, qu'on appelle le shale, qui contient du gaz. Comme les bulles sont un peu partout, toute cette couche-là se doit d'être brisée, fracturée. Alors, il y a une déstabilisation complète d'une couche géologique qui date de 450 millions d'années et qui ne peut faire autrement, selon les géologues, de créer des problématiques éventuelles de migration des gaz et aussi des fameux produits que vous parliez, les produits chimiques et l'eau qui a été injectée là. Il y en a une partie qui va rester dans le sous-sol et on ne sait pas de quelle manière elle va migrer et quand et où elle va le faire. Alors,
Une autre question, Serge Fortier, est-ce qu'au Canada, comme aux États-Unis, les propriétaires d'un terrain sont aussi propriétaires de son sous-sol? Ce qui fait qu'aux États-Unis, ils ont pu acheter le sous-sol en même temps qu'ils achetaient le propriétaire, en gros. Ouais. Est-ce qu'au Québec, ça se passe comme ça? Parce que c'est peut-être une problématique qu'on verra aussi avec nos amis qui vont parler de l'Argentine. Une problématique législative assez importante sur ces phénomènes.
Oui. Non, dans le cas du Québec, le sous-sol ne nous appartient pas, il appartient à l'État. Alors, c'est l'État qui décide à qui il cède les droits d'explorer et d'exploiter les richesses du sous-sol. On s'amuse à dire, ça veut donc dire que la fosse septique qu'on a dans notre terrain ne nous appartient pas puisqu'elle est sous la terre, plus bas que ce qui est prévu. Mais de toute façon, ça a un avantage et un désavantage. C'est que l'avantage, c'est que ça évite d'être tenté, ou un citoyen ou un propriétaire est moins tenté de faire affaire avec la gazière parce que le montant d'argent va être différent. Alors, c'est-à-dire que les gazières vont n'offrir qu'un montant pour louer l'espace pour mettre le puits, ce qui est beaucoup moindre que si le propriétaire toucherait des redevances sur l'exploitation du sous-sol, sur la richesse qu'il y a là, comme aux États-Unis. Alors ça nous protège un peu parce que les gens sont moins tentés d'avoir que ce petit montant-là et tous les problèmes qui viennent par la suite. Mais c'est donc à notre gouvernement de faire en sorte de protéger ce sous-sol-là ou cette richesse-là et de voir à ce que ça soit prêté ou donné pour le bien public, pour avantager les Québécois. Et actuellement, ce n'est même pas le cas. On va sortir de là plus pauvre qu'on était parce qu'on va hériter que des problèmes, alors que le privé, parce que ce sont des entreprises privées qui viennent exploiter, vont eux autres partir avec les profits. Alors, le profit va au privé, les problèmes vont au public.
Oui, c'est traditionnel.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est un tournant dans l'histoire, je vous dirais. Et le dossier des gaz de schiste, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase actuellement, du moins par chez nous, parce que ça démontre comment est-ce qu'on est rendu ou est-ce que dans un système genre d'oligarchie où c'est une petite, un petit nombre qui décide pour tous. Et sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte des conditions sociales, etc. Et ça, c'est une crise qui est généralisée à travers le monde et on s'en rend compte dans des dossiers comme on débat ici, l'accaparement des terres agricoles, etc.
Alors, juste, je voudrais encore revenir un petit peu pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est que la pollution vient du fait suivant. Cette eau et ces produits chimiques qui sont restés dans le sol vont évidemment polluer le sous-sol, éventuellement s'infiltrer dans les nappes phréatiques et polluer l'eau. Mais la deuxième partie de l'eau qui est remontée avec le gaz contient aussi des produits chimiques qu'il va falloir extraire de l'eau. Donc on remonte de l'eau polluée, on en laisse dans le sol, on en remonte. Et c'est ces deux phénomènes de pollution du sous-sol, de l'air et du sol qui ont amené, comme on le voit dans le film Gazland, du méthane dans l'eau potable, des animaux qui perdent leur poil, qui sont malades, des personnes qui ont des cancers, des problèmes de cancer du cerveau, etc. etc.
Ouais.
Et la question que je voudrais vous poser, quand on voit tout ça, mais finalement, est-ce que pour le Québec, ce n'est pas une grande chance économique de trouver du gaz, enfin, puisque le pétrole va s'arrêter? Moi, je ne comprends pas pourquoi vous... Au fond, la société, depuis bien longtemps, elle accepte des désagréments fantastiques parce qu'il faut bien faire rouler nos voitures et tourner nos usines à gaz. Non,
ouais,
mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre.
Oui, ça, c'est l'argument de...
Ben alors, Robert...
c'est l'argument, d'ailleurs, des gazières. C'est de dire qu'on en a besoin à tout prix. C'est une obligation puisqu'on en consomme autant le produire chez soi. Ça va nous coûter moins cher, tout ça. Mais finalement, ces compagnies-là ont des intérêts... ce ne sont même pas des compagnies québécoises pour la plupart. Il n'y a pas de... Et le peu de marge de redevance qui nous parviendrait de la manière que les politiques sont bâties au Québec, ce serait absolument ridicule. Économiquement parlant, ce n'est même pas rentable selon la structure du Québec. Ce n'est pas rentable pour les Québécois de le faire comme ça. Ça, c'est si on ne parle que du côté économique. Et même si c'était rentable, doit-on... profiter d'une rentabilité monétaire au prix d'une qualité de vie et une qualité de l'environnement, c'est la grande question qu'on a se poser dans un cadre de développement durable. Parce que nous, au Québec, notre gouvernement a développé une loi qui s'appelle la loi du développement durable et qui doit tenir compte des trois facettes importantes en développement durable, c'est-à-dire économique, social et environnemental. Et j'ai nommé économique en premier, pareil comme ils font, mais économique devrait être le dernier point à observer. Il faut commencer par savoir si un projet va affecter notre environnement, va affecter la qualité de vie de ses citoyens. Et sinon, voyons la rentabilité pour le faire. mais pas l'inverse. Et actuellement, c'est l'inverse. Mais le pire, c'est parce que si le gouvernement ou l'industrie tient tant à vouloir s'installer au Québec ou ailleurs, en France, c'est parce qu'il y a des intérêts financiers, même pas prouvés, parce qu'on sait que c'est possiblement une bulle spéculative aussi. On a juste à regarder, le gouvernement a cédé les droits d'exploration à 10 sous l'hectare aux gazières. Et encore une fois, sans le consentement des citoyens, personne n'était au courant de rien que les droits étaient cédés qu'aux gazières. C'était un privilège pour eux. 10 sous l'hectare, alors que dans l'Ouest canadien, les mêmes hectares, les claims qu'on appelle, se vendent 500 à 1000 $ l'hectare. Alors, de 10 sous à 1000 $ c'est 100 000 fois plus. Et c'est pourquoi les gazières au Québec sont intéressées d'aller voir s'il y a de la richesse dans le sous-sol au plus vite. Parce que dès qu'ils vont prouver qu'il y a vraiment une richesse dans le sous-sol, le prix des claims va monter. Alors, c'est de la spéculation, tout simplement.
Non, c'est de la spéculation, mais c'est aussi le fait qu'on ne veut pas mettre un frein à un type de développement. Parce que quand vous parlez de développement durable, moi, je traduis du développement qui va durer.
Ouais.
Et moi, peut-être que ce développement que l'on constate depuis des dizaines d'années, ce n'est peut-être pas tout à fait le bon. Hein? Est-ce qu'au fond, après le pétrole, pour continuer à gaspiller les ressources de la planète, est-ce qu'on ne cherche pas à racler les fonds de tiroir en laissant à nos enfants que les miettes pour demain, pour continuer finalement à ne pas changer de type de civilisation, à ne pas changer de type de société, une société productiviste, une société consumériste, même pas pour le bien de l'humanité, pour le bien d'une minorité de l'humanité, est en train de complètement détruire, assoiffer et gaspiller les ressources de la planète. Et on est bien là, dans le cœur du problème de ces rencontres internationales.
Oui, exactement. Et puis, le fait de continuer à vouloir exploiter des hydrocarbures de cette façon-là, alors qu'on sait déjà que c'est le cœur du problème environnemental de la planète, c'est complètement aberrant. On nous accuse, nous, les citoyens qui s'opposent à des projets, des immobilistes, des gens qui ne veulent pas le progrès ou tout ça, alors que l'immobiliste est dans les énergies sales. L'immobiliste est de continuer à vouloir exploiter des hydrocarbures et de plus en plus polluants puisqu'ils doivent aller les chercher de plus en plus loin. Il y en a de moins en moins. Et c'est ça. Et on parlait tantôt d'empêcher le développement des énergies, tout ça. Savez-vous, c'est quelle énergie actuellement que ça empêche de développer lorsqu'on se consacre à mettre des argents et de la recherche sur les gaz de schiste? C'est les énergies vertes, les énergies propres, l'éolienne, le solaire, tout ça, la géothermie, le biométhane. Si on veut du méthane, là, pas obligé d'aller chercher à 3 km de profondeur à polluer l'environnement. Les agriculteurs qu'on a dans le coin, parce que c'est sur des terres agricoles où ils veulent faire l'exploitation, les tas de fumier des agriculteurs dégagent du méthane. Ils pourraient être captés en biométhanisation et les fermes deviendraient autonomes au niveau énergétique. Ils pourraient vendre même 75% de ce qu'ils produiraient en méthane au réseau Hydro-Québec. Mais les politiques ne sont pas développées dans ce sens-là. Et on a remarqué que 50% des investissements dans les énergies vertes ou alternatives ont diminué depuis que le dossier des gaz de schiste a pris de l'ampleur là, sur le territoire.
Mais on ne fera quand même pas l'impasse ou l'économie, comme je disais tout à l'heure, d'une autre façon de regarder la façon dont on vit. C'est de toute façon, il faudra consommer moins et il faudra produire autrement. Mais il ne faut pas oublier le consommer moins. On ne peut pas continuer dans ce monde, et en tout cas certains pays, et les pays les plus développés, je ne sais pas si c'est un bon mot, ou les plus civilisés, je ne suis pas sûr que ça le met aussi le bon mot.
Mais
en tout cas, il faut qu'ils arrêtent de cette consommation effrénée, d'ailleurs qui empêche les autres de consommer. Ouais. Mais de toute façon, il faudra baisser la consommation et produire autrement. Et vous parlez à juste titre de tout ce qui sont les énergies renouvelables. Mais on voit bien qu'aussi, des fois, mais on en parlera peut-être avec l'exemple argentin, le lithium qui sert, les métaux rares qui servent aussi à fabriquer des panneaux photovoltaïques sont quelquefois un petit peu aussi à problème.
Oui. Vous savez, il y a un prix à payer pour chaque chose. Nous, l'électricité est produite par des barrages hydroélectriques. En soi, c'est une énergie qu'on dit propre, mais il y a eu un prix quand même à payer. C'est d'inonder certains grands territoires et puis de déboiser des grands corridors pour faire passer les lignes électriques. Ça, c'était le prix à payer, mais à long terme, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça qu'il faut se poser, parce qu'il y a toujours un prix à payer. Mais le prix à payer pour le gaz de schiste, c'est vraiment trop élevé. Et puis, il faut... Et la seule façon de pouvoir contrer une industrie comme ça ou un lobby comme ça, c'est de faire comme il s'est fait dans le Larzac, il y a 30 ans. Hein? Il s'est fait une levée de boucliers, mais une levée citoyenne, forte, et c'est ça qui permet de gagner des batailles. Ce n'est que c'est la seule solution à tous les problèmes qui existent sur notre terre, la force des citoyens regroupés ensemble.
Mais juste avant de faire une petite pause en musique, il me semble qu'au Québec, il y a une grosse mobilisation citoyenne contre le gaz de schiste.
Oui, de plus en plus grosse, mais c'est difficile de faire bouger le Québec, sauf que parce qu'on se rend compte que 95% et plus des Québécois craignent la venue des gaz de schiste, mais ne le disent pas tant que tu ne vas pas cogner à leur porte puis leur faire signer un papier comme quoi que « oui, je suis inquiet ». Alors, il y a une action citoyenne actuellement qui se fait justement sur le territoire qui permet, et c'est très exigeant parce que ça demande des bénévoles pour aller de porte en porte, aller cogner à toutes les portes de la vallée du Saint-Laurent et dire aux gens, regarde, il faut que vous vous positionniez parce qu'on n'a pas l'habitude de sortir dans la rue, nous, les Québécois, tant que ce n'est pas directement dans notre cour. Là, t'sais? Alors, c'est... mais ça va bien, ça va bien. Et on se rend compte que c'est l'arme la plus forte et on va... gagner cette bataille.
Alors vous le disiez tout à l'heure, au Larzac en particulier, la mobilisation a été très forte, mais aussi ailleurs qu'au Larzac, en Ardèche en particulier.
Oui.
Gardarem, la terre et la mer, dans une émission consacrée à la spoliation des territoires sur des questions d'accaparement de ressources naturelles, présentée par Robert Martin, Radio Pays des Raux.
Et bien après les gaz de schiste, on va prendre un autre exemple de la même problématique et du même problème. Il y en aurait bien d'autres. On a choisi deux exemples en particulier, mais il y en aurait bien d'autres. Roger Moreau, donc, rebonjour. On s'est dit déjà bonjour tout à l'heure. Donc, vous nous venez d'Argentine. Vous étiez, Oui. Vous n'êtes pas un inconnu sur le Larzac, mais vous nous raconterez peut-être un petit peu. Mais en tout cas, vous êtes venu ici présenter avec votre invité la lutte qui est menée en Argentine. Alors là aussi, c'est pas, on va pas chercher le gaz de schiste à 3 km de profondeur. Là, on ouvre carrément la terre et ce sont des mines à ciel ouvert. Vous pouvez nous raconter un petit peu ?
Oui, alors il y a les mines à ciel ouvert. Pour moi, personnellement, cette aventure a commencé de cette manière-là. Je vis donc depuis 26 ans dans une haute vallée andine à 2500 mètres d'altitude. Et il y a 3 ans et demi, maintenant, nous avons appris l'existence d'un projet de mine d'uranium, forcément à ciel ouvert, à 10 km en amont d'où j'habite. Voilà. Et alors, je me suis sur la lancée de mon expérience au Larzac jadis, puis ensuite d'une autre lutte contre une ligne à haute tension dans la même vallée et qui a été victorieuse. Le gouvernement et l'entreprise ont
refusé. Ça fait plaisir des luttes victorieuses.
Ça fait deux fois. Bon, bravo. La troisième, on verra. Je ne sais pas.
Quand Roger Moreau est là, la lutte est victorieuse peut-être.
Espérons. Et voilà. Et donc, nous avons réagi, et moi, je suis pas un homme d'action, par désir, mais en fait, je suis toujours rattrapé par ce genre de lutte. Donc, je me suis joint à un petit groupe et à la population qui luttait contre ce projet de mine d'uranium, mais ceci nous a mis en contact et ouvert aux communautés de l'Altiplano qui, elles, sont en but aussi à plus que des menaces, même à des mines existantes à ciel ouvert. Alors, il y a deux mines métallifères à ciel ouvert qui existent déjà sur la Puna, sur l'Altiplano donc de notre province. Ce sont deux mines qui étaient dans le temps qui étaient des mines souterraines et qui ont été reconverties en des mines à ciel ouvert. Et puis, depuis très peu de temps, depuis 2 ou 3 ans, est survenue la menace de l'exploitation de lithium dans des salins, dans les lacs salés de l'Altiplano. Donc ça, c'est encore un autre problème et qui a une connexion, comme vous disiez tout à l'heure, avec non seulement avec les questions de minéraux, disons, mais aussi énergétiques, puisque tout le lobby, disons, du lithium, tant politique qu'industriel et financier, présente le lithium comme une des grandes chances, peut-être à égalité avec le gaz de schiste, ou encore plus, parce que, pour remplacer, disent-ils, le pétrole. Ce qui est fallacieux, parce que le lithium sert à fabriquer des batteries. Donc c'est un produit qui favorise la conservation et l'emmagasinement de l'énergie, mais qui ne la produit pas. Et donc qui laisse entier la question de la production d'énergie. Ça sera avec du gaz de schiste ou autre chose.
Mais ce sont toujours des ressources non renouvelables, que ce soit l'uranium. Parce qu'on nous bassine beaucoup avec l'énergie nucléaire, mais l'énergie nucléaire, elle se sert de minerais d'uranium. Et sur cette planète, les réserves de minerais d'uranium, sont, comme de lithium, sont finies. Connues ou pas connues, mais sont finies. Alors, en France et au Québec, on a vu que sur le gaz de schiste, il y avait 3 problématiques différentes. Un problème démocratique, on n'a pas trop demandé aux populations leur avis. Un problème économique, et on a vu que bon, il servait les intérêts de certains, et puis des dégâts environnementaux et écologiques. Alors, sur l'uranium et sur les mines de lithium, est-ce qu'on peut retrouver ces 3 points sur le plan démocratique, économique, environnemental, et puis social avec les populations qui sont sur ces...
Et c'est le même. C'est en cela aussi que m'intéresse beaucoup la lutte contre les gaz de schiste dans la région, ici au Larzac. Là, j'ai été très frappé l'autre jour par l'exposé qu'on nous a donné, parce que je voudrais le retransmettre, parce qu'il y a forcément des différences selon les endroits géographiques et culturels et autres, et économiques. Nous sommes ici dans un pays très développé économiquement, disons, et chez nous, c'est plutôt le sous-développement. Mais il y a des constantes accablantes et qu'il faut transmettre sur les manières d'agir de ce que j'appelle le lobby minier, et c'est-à-dire toujours l'agissement, le manque absolu de transparence, sauf quand, évidemment, quand nous découvrons nous levons des lièvres, ils sont bien obligés de faire front, mais toujours, et au Comolarzac, quand disaient les paysans, ont appris par la télévision le projet d'extension du camp du Larzac. C'est vraiment frappant de voir comment les mêmes choses se reproduisent. Bon, et puis alors, ce manque donc de démocratie se révèle au début de l'affaire, mais ensuite tout le long, malgré la loi du droit à l'information qui est en Argentine, je suppose ici aussi, eh bien, il y a une rétention d'informations considérable et tout se passe le plus possible en France et par-dessous. Et il y a d'autres choses qui passent par-dessous.
L'argent
De sous la table. En France, en Argentine, on dit « debajo del poncho », sous le poncho. Et c'est une des choses les plus difficiles à prouver, puisque par définition, la table et le poncho ne sont pas transparents. C'est tout un problème. Mais enfin, c'est quand même de notoriété publique. Alors ça, c'est un aspect de la démocratie, de nos démocraties qu'il fallait souligner. Bon,
il semble que la question de la transparence soit une question commune à tous ces types de projets miniers ou d'exploitation de ressources naturelles. On a rencontré aussi une femme qui nous vient de Mauritanie, qui est venue là pour la pêche, mais qui milite aussi, m'a-t-elle dit, dans une association pour que soit publié ce qui se passe. En Mauritanie, elle nous a raconté donc, des mines d'or où les gens sont surexploités. Enfin, c'est de l'esclavage, quoi. Ça a l'air assez commun, ce thème, donc, d'obtenir la transparence sur ces questions. Mais j'aurais souhaité... revenir à un petit peu, à être plus terre à terre sur la question de ce qui se passe en Argentine, soit avec vous, Roger Moreau, soit avec José Sarama. C'est sur la question de comment ça se passe, comment on ne connaît pas bien en France. Là, on a parlé de l'exploitation du gaz de schiste, la fracturation hydraulique. Mais comment ça se passe très concrètement, une mine à ciel ouvert, qu'est-ce que ça implique au niveau de la pollution, au niveau des travaux d'infrastructures, peut-être d'appropriation de terres, et puis j'imagine aussi de conditions de travail des gens et de dangerosité.
José?
Bueno, pertenezco al pueblo originario, pueblo indígena Colla, en el norte de Argentina.
Bonjour, j'appartiens au peuple Colla, c'est un peuple originaire du nord de l'Argentine.
Históricamente, nuestro pueblo fue minero por estar en una zona andina.
Historiquement, on est un peuple minier parce qu'on est dans une zone, dans la zone andine.
Primero trabajamos la minería artesanal, donde no se utilizan productos químicos ni consumos grandes o grandes consumos de agua.
Dans un premier temps, c'était une minerie. Une exploitation minière artisanale plutôt, où il n'y avait pas une utilisation de produits chimiques ni de grandes quantités d'eau.
Luego se instalaron las mineras a hacer una modalidad de explotación que es subterránea.
Après, avec l'arrivée des compagnies minières, elles ont développé une exploitation dans le sous-sol.
Esta dejó daños irreversibles que hasta el día de hoy, las poblaciones del lugar estamos lamentando.
Cette exploitation a laissé des dommages irréversibles qu'on continue à sentir aujourd'hui dans nos populations.
Actualmente se habla de proyectos de explotación minera con la modalidad a cielo abierto.
Dans l'actualité, on parle d'une autre modalité d'exploitation minière, et c'est les mines à ciel ouvert.
Esto no solamente nos preocupa la cuestión ambiental, sino también otros, como los daños culturales, el atentado a nuestra cosmovisión, el daño económico, entre otros.
Avec ce nouveau mode d'exploitation, nous sommes préoccupés pas seulement par les dommages pour l'environnement, mais pour les dommages culturels aussi et de cosmovision de nos peuples.
También la violación de derechos, como por ejemplo el derecho a la información.
Aussi la violation des droits ainsi que l'accès à l'information.
Et también a la consulta y participación. Porque los pueblos originarios tenemos derecho a participar en la gestión de los recursos naturales.
Mais ça touche aussi le thème de la consultation aux peuples originaires, parce que nous, on a le droit d'être consultés avant qu'il y ait une mise en place de l'exploitation minière.
Alors, on retrouve là exactement ce qu'on a dit pour les gaz de schiste, c'est-à-dire un déni de démocratie. On fait comme si les peuples, si les populations n'existaient pas, et on prend au fond les décisions à leur place. C'est bien ça qui s'est passé chez vous.
Sí, el Estado jamás nos ha consultado si queríamos hacer una explotación minera o no. Directamente se los hacía.
Oui, l'État nous a jamais consulté avant de mettre en place une exploitation, ni nous a non plus informé.
Donc, José nous a parlé de dégâts environnementaux sur ces mines-là. Il peut nous décrire un petit peu les pollutions écologiques que cela engendre sur ce territoire.
En Argentina, hay un caso muy conocido que de explotación minera a cielo abierto que se ha hecho en la provincia de Catamarca.
En Argentine, il y a un cas très connu d'une exploitation minière à ciel ouvert qui a été fait dans la province de Catamarca.
Este ha dejado daños irreversibles en la región por el consumo irracional del agua.
Cette exploitation a laissé des dommages au niveau de l'environnement, surtout par de la pollution de l'eau.
También en forma general los estudios dicen de que entre el 9 y el 11% del calentamiento global es producto de las empresas mineras.
Aussi parce que il y a des chiffres qui indiquent que le 9% du réchauffement de l'environnement est produit par les exploitations minières.
También ellos utilizan para el proceso de lixiviación un componente químico que es altamente contaminante como el cianuro.
Et ils utilisent pour les traitements des minéraux des produits comme le cyanure qui sont très polluants.
Je me mets à parler espagnol. On a des conséquences forcément sur la santé des mineurs, des travailleurs. Ce sont des produits qui ne sont pas anodins. Alors, en termes de santé publique, quel est le constat que l'on peut faire?
Santé publique et conditions de travail.
Hay una población en la Puna, se llama ahora Pampa, tiene alrededor de 15.000 habitantes.
Il y a une population à la Puna qui a 15.000 habitants et il s'appelle Oropamba.
C'est un gros village.
Bueno, ahí se hacía la fundición del plomo que se extraía de un lugar aledaño o cercano a esta ciudad.
Ouais, donc dans ce village, les exploitations minières amenaient le plomb pour le traiter et le fondre.
Y el daño en la salud es irreversible porque los estudios dicen que entre los chicos, los niños,
les dommages qui ont été causés par cette fonte de plomb sont irréversibles parce qu'il y a des chiffres qui indiquent que dans les populations d'enfants,
los niños de entre 5 y 13 años tienen plomo en la sangre.
Des enfants entre 5 et 13 ans, ils ont du plomb dans le sang.
Saturnisme, on appelle ça en France, c'est ça?
Si.
Oui, c'est ça.
Quelles sont les entreprises qui exploitent ces mines? Ce sont des entreprises argentines?
La légalité, le marco juridique en Argentine dit que...
Le cadre juridique en Argentine dit que...
Una empresa argentina no puede explotar en su propio territorio, o sea que hay que traer inversiones extranjeras.
Une entreprise argentine ne peut pas faire une exploitation dans son propre territoire. Il faut donc amener des entreprises étrangères.
C'est les Américains qui ont fait cette loi ?
C'est un président Saul Menem, qui déclarait qu'il avait avec les États-Unis des relations charnelles.
D'accord.
Donc ce ne sont pas les États-Unis, c'est pire, c'est un complice.
Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort. Couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. Te détruisent pour du papier. Pour souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe. Car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres. Nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au centre de ta souffrance. Aujourd'hui ils sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence, écharmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe. Le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rabord, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix. Allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente et brevettes chacune de tes espèces. Terre, mer, patrimoine ancestral de vie. Considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Puisse t'aimer, donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol. Ton recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonné ton air, souillé tes océans, tes rivières et tes mers. Et on vampirisé ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, déréglé ton climat. Nous ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama.
La terre et la mer, toujours à Nantes, dans l'Aveyron, pour parler aujourd'hui de l'accaparement des ressources naturelles et des sous-sols, avec nos invités Serge Fortier, québécois, qui nous parle des gaz de schiste, Roger Moreau et José Sahama, argentins, qui sont venus nous parler des mines à ciel ouvert, et des mines aussi d'uranium. José, en France, pour le gaz de schiste et au Québec, une forte mobilisation permet de lutter contre ces projets gouvernementaux, ces destructions de l'environnement. Les populations se mobilisent, s'organisent. En Argentine, comment ça se passe, la lutte contre ces exploitations?
La lucha la encaramos a partir de ya hace algunos años.
Donc, la lutte qu'on mène, elle vient de déjà plusieurs années.
Et con denuncias ante la justicia provincial y nacional.
Ouais, avec des procès judiciaires face à la justice régionale et nationale.
También con las movilizaciones y asambleas permanentes.
Avec aussi les mobilisations et les assemblées permanentes.
Y como un tercer frente de lucha es avanzar sobre la concientización.
Et notre troisième front de lutte est justement la prise de conscience de l'exploitation minière.
Sí, porque en esta tercera forma de lucha, todavía hay gente que cree que la minería da trabajo.
Parce que dans ce troisième front de lutte, il y a encore des gens qui pensent que que l'exploitation minière sont une bonne source de travail.
Donc là, on aborde un peu le problème social et le problème comment dire, de l'emploi. On a l'impression qu'au nom de l'emploi, on peut faire n'importe quoi. Et apparemment, Serge Fortier, là, vous me faisiez un petit signe. Alors, en Argentine, les Québécois ou les Canadiens sont présents pour aller exploiter les mines d'uranium, c'est ça?
Oui, je préfère dire les Canadiens que les Québécois. Nous, on n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est plus les entreprises minières de l'ouest du Canada et on s'en exclut, nous, les Québécois. Bien que c'est dans le même pays, mais je ne suis pas honoré de devoir avouer que oui, le Canada travaille beaucoup à l'étranger et ne sont pas plus respectueux, si on veut, des peuples qui vivent là et des conditions environnementales que n'importe quelle autre compagnie étrangère.
J'aurais souhaité savoir, vous tous qui êtes présents ici, et depuis plusieurs jours dans ces rencontres internationales Gardarem, la Terre et la Mer, donc on évoque des problèmes donc d'accaparement de ressources naturelles dans le sud, mais aussi dans le nord, ce qu'on appelle les pays développés et les pays sous-développés ou en voie de développement. Bon, j'aime pas bien ces termes-là, mais il y a des choses qui divergent, puisque souvent on voit quand même que dans les pays du sud, il y a encore plus, encore moins de transparence, peut-être encore plus de bakchich. Je dis pas qu'il y en a pas ici, mais ça va peut-être prendre d'autres formes. Mais il y a des choses communes à ces questions qui fait que vous vous retrouvez tous ici déjà pour en parler. Il y a des choses communes sur les constats. Il y a peut-être des choses communes aussi à faire pour lutter à un niveau international sur ces choses-là. Alors, quelles sont-elles? Qui souhaite répondre? Serge Fortier?
Oui, il y a beaucoup de points communs parce que c'est toujours la même stratégie que l'industrie utilise, que ce soit dans les pays en émergence ou les pays plus riches. C'est les mêmes stratégies, c'est juste qu'ils mettent moins d'argent dans les pays en émergence pour toute la campagne pour faire accepter ça ou pour étouffer ça. C'est juste ça, la différence, je vous dirais, c'est au niveau de ce que ça coûte. Ça leur coûte, alors c'est peut-être pour ça qu'ils travaillent plus dans des pays en émergence. Mais la méthode est toujours la même, alors il y a des similitudes partout, c'est-à-dire non-transparence, pas mettre la population au courant, mettre la population devant le fait accompli, nier les impacts aussi. Alors, l'industrie passe son temps à nier les impacts possibles sur l'environnement, sur la population. On nous raconte des histoires abracadabrantes. Un enfant croirait même pas ça, seulement. Mais c'est ce qu'ils nous racontent. Et finalement, si on perd la bataille, lorsqu'ils sont installés et qu'on a des conséquences qu'on doutait, mais qu'on est pris pour vivre avec, l'industrie continue à nier, et on se doit, et je crois que c'est comme ça dans tous les pays, c'est que c'est l'individu, c'est les citoyens, la population qui se doivent de faire la preuve que c'est l'industrie qui a contaminé l'environnement ou leur puits d'eau, etc. Alors que ça devrait être l'inverse. Comment voulez-vous que les simples citoyens puissent se défendre? Donc, les problématiques ne sont jamais réglées, puisqu'on a beau créer des mouvements pour aller en cour et contester des problèmes, ça dure des années, voire des dizaines, des vingtaines d'années, et les gens qui en ont souffert ont le temps de mourir dans bien des cas, et rien ne se règle, tout s'étouffe. Alors ça, c'est complètement anormal, et je crois que c'est généralisé, c'est toujours ce qu'on retrouve.
Roger Moreau, vous qui suivez un petit peu ces luttes en Argentine, quel espoir ont ces populations de se réapproprier leur territoire, leur environnement, ouais. Et peut-être qu'on a aussi détruit sur ces territoires-là un mode de vie, je dirais, ancestral, dans l'intérêt unique des grands groupes financiers, dont certains sont canadiens apparemment.
Oui, la question est particulièrement pertinente, même dans sa formulation, parce que vous avez prononcé le mot territoire, et c'est un mot fondamental parce que toutes ces agressions ont une dimension territoriale. Et je remarquais récemment qu'une entreprise minière aussi puissante et aussi riche soit-elle, et autant d'appui qu'elle puisse avoir au niveau politique, tant qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas appropriée par achat ou par concession un territoire, elle n'est rien, malgré ces millions de dollars. Par contre, dès qu'elle a pu mettre le pied sur un territoire, elle commence à le clôturer, et là, elle est toute puissante. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est une indication pour nos luttes, qui sont beaucoup fondées sur le territoire. Et à part ça, je dirais que tout à l'heure, nous avons mis en évidence les constantes dans les manières d'agir des lobbies miniers, partout, bon. Mais il y a aussi des constantes qu'on ne retrouve pas partout, mais chaque fois qu'une lutte se développe, il y a aussi des constantes dans la manière d'agir des populations. Et ça, c'est l'une des expériences les plus émouvantes de ma vie, depuis le Larzac jusqu'en Argentine, d'observer que souvent la lutte, je dirais toujours, la lutte commence, elle prend, comme la mayonnaise, grâce à des circonstances confluentes, un concours de circonstances qui fait que les gens se soulèvent. L'exemple le plus frappant de ça, c'est, je pense toujours à la dame la dame au démarrage des luttes de Martin Luther King, des Noirs américains pour les droits, cette dame qui s'était assise à la place d'un blanc et qui ne s'est pas levée, et tout est parti, cette geste extraordinaire est parti de là. Et alors sur la... chez nous aussi, dans mon village, là, pour l'uranium, il y a eu aussi des choses analogues, mais c'est encore plus frappant dans le cas des communautés de la Puna, qui se sont, les 33 communautés qui se sont organisées depuis un an et demi spécialement pour lutter contre ces mines-là. Et ça a démarré aussi par une petite bonne femme, je dirais, une petite boulotte, hein, qui ne supportait pas, qui souffrait beaucoup du fait que son mari ait accepté de signer avec les entreprises et l'État pour leur donner la permission d'exploiter le lithium à l'endroit où ils exploitent du sel. Et alors elle raconte qu'elle souffrait pendant des jours ou des semaines, je priais, etc. Et puis un beau jour, elle s'est levée et elle a convoqué les 33 communautés. Et tout aussi est parti de là. Et alors là, je peux témoigner, il y a une lutte assez extraordinaire que j'ai le privilège de suivre afin d'être intégré à leur réunion. Et voilà.
Certains se souviennent aussi de Marie-Rose Guiraud sur le Larzac.
Et oui.
Rosé Sarama, qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'être ici présent, d'entendre des récits d'expériences similaires sur un accaparement de ressources naturelles donc, par rapport à vous, ce que vous vivez, vous et votre communauté, et par rapport à votre lutte aussi.
Bien, en principe, compartir un peu l'expérience de lucha que tenemos allá en Argentina.
En principe, partager la lutte qu'on mène en Argentine.
Y de esa manera fortalecer a quienes están haciendo un proceso igual de lucha en esta parte del territorio.
Et de la même façon, donner de la force, du courage aux luttes qui se mènent ailleurs.
Por otro lado también aprender de las luchas de acá para poder aplicarlas allá.
D'un autre côté, de pouvoir écouter ici d'autres expériences de lutte pour pouvoir les amener en Argentine.
Bon, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Hein. Une heure, ça passe vite. Alors, avant que Catherine nous rappelle un petit peu le programme de ces fins de rencontres internationales, un petit mot de conclusion. Serge Fortier.
Oui, alors, écoutez, j'étais très honoré d'avoir reçu l'invitation à venir partager l'expérience du Québec. Et puis, je crois que ça va tisser des liens aussi pour vous aider dans cette lutte-là qui commence chez vous, je vous dirais, là, du moins qui vaut la peine d'être prise en main par les citoyens du fait que vous n'avez pas de puits encore chez vous. Il ne faut pas qu'ils violent le territoire français. D'accord? Je m'en tiens garant.
Je rappelle qu'on parle de gaz de schiste avec Serge Fortier.
Gaz de schiste, oui.
Oui, mais vous savez, on a aussi des mines d'uranium, hein, dans l'Hérault en particulier, avec tous les problèmes de radioactivité qui se sont posés pour nous. Roger Moreau, une conclusion un petit peu, et puis quelques espoirs dans ces rencontres internationales sur le plan pratique.
Oui, alors ce que je dirais, c'est le côté émouvant d'être venu ici, d'être avec vous là, et d'être revenu sur le Larzac. De par la continuité qu'il y a personnelle pour moi, une continuité entre les luttes du Larzac ici, nos luttes en Argentine, et maintenant à nouveau, y compris une continuité territoriale, à nouveau une nouvelle agression sur le Larzac. Donc il y a tout un ensemble comme ça, un système, je dirais, de lutte
Boucle est bouclée elle sera victorieuse.
Voilà.
José,
No pasarán.
Un petit mot de conclusion.
Agradezco la invitación.
Je vous remercie pour l'invitation.
Para poder a través de ustedes llegar a la sociedad en general.
Pour pouvoir à travers vous me faire entendre dans la société en général.
Y invito a todos quienes nos escuchan.
Et j'invite à tous ceux qui nous écoutent
à consolider la lucha en cualquier parte que fuese.
Et à donner une force à la lutte n'importe où.
Ouais. Alors écoutez, c'est nous qui vous remercions avant que Catherine vous donne un petit peu la fin du programme. Merci donc d'être venu dans nos studios. Merci à la technique, à Mathieu et à Nicolas. Et puis je laisse la parole à... je vous remercie pour nous avoir écoutés. Et puis je passe la parole à Catherine pour la fin du programme.
Je rappelle donc à tous les auditeurs qui ne sont pas très loin de ces rencontres internationales qui ont lieu à Nantes que vendredi 15 juillet à partir de 17h à la salle du Rock Nantais Relais Soleil à Nantes, il y aura donc une conférence débat avec José Bové sur les spoliations des communautés rurales et maritimes liées au projet minier dont on vient de parler, d'infrastructure avec le cas du gaz de schiste en France et à Nantes. À 21h à la ferme de Brunas sur le Larzac, la même soirée, donc vendredi 15 juillet, donc le film documentaire « À ciel ouvert » sera présenté sur la lutte des Indiens Colas, donc Puna Argentine, dont on vient aussi d'évoquer quelques traits avec Roger Moreau et José Sahama. Merci. Et toute la journée de samedi, les habitants, les personnes sont invitées à venir rencontrer à Nantes au Relais Soleil. Donc les différentes personnes qui participent à ces rencontres internationales de 10h à 12h30 à Nantes sur des conférences, pistes stratégiques d'action et de propositions sur l'accaparement des terres agricoles, la pêche industrielle, les gaz de schiste au Canada. Vous pourrez rencontrer Serge Fortier et discuter avec lui. La spoliation des communautés rurales. de 15h à 17h30 avec des ateliers parallèles à partir de témoignages sur la situation des différents pays. Donc c'est l'occasion quand même de venir rencontrer des gens qu'on ne voit pas tous les jours parmi nous. À 18h30, une synthèse des ateliers et à 21h, passer une petite soirée sympathique, musicale au Relais Soleil à Nantes. Et enfin, on terminera ces rencontres dimanche 17 juillet sur le Larzac avec un rendez-vous à 10h à la bergerie de la Blaquière, la fameuse bergerie de la Blaquière construite pendant la lutte du Larzac, pour une marche Larzac Terre Citoyenne 1971-81-2011 à l'occasion de l'anniversaire de la lutte du Larzac. Donc pour aller monter un cairn et lancer un appel contre ces problèmes d'accaparement des terres qui ont lieu aujourd'hui un peu partout dans le monde, avec un pique-nique à 13h.
Et juste pour finir, merci à nos traducteurs, Sébastien et Pauline. Voilà, bonne journée à tous et à demain.